Merci d'écouter RFI, midi et demi en temps universel. Il est 14h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Au Niger, des perquisitions hier contre des locaux d'Orano et de ses filiales. Ils restent sous scellé ce matin. Les relations sont tendues entre le géant français du nucléaire et le nouveau pouvoir depuis le coup d'État de juillet 2023. Port-Soudan, à nouveau bombardé par des drones, des milices FSR ce matin. Troisième jour de frappe consécutive contre ce port qui abrite le siège provisoire du gouvernement. 4 mois après son arrestation au Cameroun, Armel Sayo extradé vers Bangui. L'ancien ministre centrafricain qui avait repris les armes l'an dernier a été acheminé hier soir en RCA après de longues procédures judiciaires et diplomatiques. Alors que l'administration Trump veut expulser des centaines de milliers de clandestins du territoire américain, le Rwanda indique être en discussion avec les États-Unis pour un accord migratoire. Que cherche Washington? Que cherche Kigali? Thierry Vircoul, en chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, est notre invité. Un nouvel épisode dans le bras de fer entre les autorités nigériennes et les géants français de l'uranium Orano. Les locaux du groupe et de ses filiales à Niamey ont été perquisitionnés hier par la DGDSE, le service de la sécurité extérieure. Un responsable nigérien a été emmené ainsi que du matériel, Magali Lagrange.
Oui, les locaux d'Orano et de ses filiales à Niamey bouclés ce matin, mis sous scellé, inaccessibles au personnel. Les bureaux ont été fouillés hier pendant près de 6 heures par la DGDSE. Les hommes de la sécurité extérieure ont en effet emmené le directeur d'Orano au Niger, Ibrahim Koumo, ainsi que des ordinateurs et des téléphones portables. Les relations entre le Niger et le groupe français sont tendues depuis le coup d'État de juillet 2023. Le CNSP met régulièrement en avant sa volonté de souveraineté sur les ressources nationales. Orano affirme pour sa part que tout dialogue avec Niamey est désormais impossible. Toutes les opérations du groupe français sont suspendues dans le nord du Niger où plus de 1000 tonnes d'uranium sont stockées faute de pouvoir les exporter via le Bénin. Les travaux de réaménagement du site de Cominac sont suspendus. Orano a perdu le contrôle opérationnel de la Somaïr et le permis d'exploitation du site d'Imouraren lui a été retiré l'an dernier. Le minier français a engagé 2 procédures internationales d'arbitrage.
Au Mali, les partis politiques appellent à un nouveau rassemblement vendredi prochain. Ce week-end, ils ont été empêchés de tenir un premier meeting contre leur dissolution annoncée. Mais cela n'avait pas empêché une manifestation sans précédent devant le Palais de la Culture de Bamako. David Baché réunit hier. Les chefs de parti ont donc décidé de maintenir la pression et ils donnent rendez-vous cette fois-ci devant le monument de l'indépendance.
Mais oui, le rendez-vous est fixé cette fois non pas dans une salle, mais en pleine rue, au cœur de Bamako, sur une place symbolique des combats menés par le peuple malien contre l'ex-président Ibeka ou contre les sanctions de la CDAO, par exemple. « Nous montons d'un cran pour démontrer notre capacité de mobilisation », explique un chef de parti très impliqué, ajoutant que des contacts ont été pris avec d'autres acteurs, religieux, traditionnels, sociétés civiles, pour tenter de les rallier. « Le peuple a son destin en main », s'enthousiasme déjà un ancien ministre.
Alors pour autant, tout le monde s'attend à ce que le rassemblement annoncé soit interdit par les autorités de transition.
Oui, et en cas d'interdiction, nous resterons légalistes, assure un chef de parti. Le rassemblement sera annulé, comme le meeting de samedi dernier. Nous ne voulons pas tomber dans leur piège, nous n'irons pas à la violence. Samedi et dimanche dernier, les 2 événements organisés au Palais de la Culture et à la Maison de la Presse avaient été empêchés pour le premier, perturbés pour le second, par des individus mobilisés par les autorités, parmi lesquels un membre du CNT et des chargés de mission de la primature et du ministère de la Réconciliation. Des journalistes avaient même été agressés physiquement et verbalement, selon un communiqué indigné de la Maison de la Presse. De nombreuses sources craignent également que les autorités de transition ne prennent rapidement des mesures pour limiter les rassemblements, voire pour suspendre les activités politiques dans le pays, comme elles l'avaient fait l'année dernière. À ce stade, aucune annonce n'a été faite.
À 6 mois de la présidentielle ivoirienne, la CAP Côte d'Ivoire renouvelle son appel au dialogue avec le gouvernement. Cette coalition qui regroupe plusieurs figures de l'opposition telles que Pascal Affine-Guessant du FPI, Charles Blé-Goudé du COGEP ou encore Tidjane Thiam du PDCI se montre toujours très critique vis-à-vis de la commission électorale. qu'elle estime être partiale, Binta Diagne.
La CAP Côte d'Ivoire remet en question la liste électorale provisoire, ainsi que la commission électorale indépendante. La CEI n'a pas de légalité, affirme la porte-parole de cette coalition, Simone Eyvé, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, qui appelle une fois de plus au dialogue.
La CAP Côte d'Ivoire réitère l'impérieuse nécessité d'opérer les réformes minimales nécessaires pour des élections transparentes, inclusives et crédibles en 2025. Une dernière lettre de relance de la nécessité de ce dialogue vient d'être envoyée à nouveau au chef de l'État.
Cette coalition compte organiser un meeting le 31 mai prochain à Abidjan pour réclamer notamment la réinscription des leaders politiques radiés de la liste électorale. Charles Blégoudé est chargé d'organiser ce rassemblement.
Nous voulons une compétition réelle qui puisse permettre aux Ivoiriens d'aller choisir personnalité à qui ils veulent confier leur destinée pour les 5 prochaines années.
Les élections seront apaisées, démocratiques et transparentes, soulignait récemment le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Ce responsable politique rappelle par ailleurs que toutes les questions ont déjà été abordées dans la 5e phase du dialogue politique qui s'est achevée en mars 2022. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
4 mois après son arrestation, le chef rebelle Armel Sayo, extradé du Cameroun vers la Centrafrique. Esdras Dikoumana, cet ancien ministre centrafricain qui avait repris les armes l'an passé en menaçant de renverser l'actuel régime, a été acheminé hier soir à Bangui après de longues procédures diplomatiques et judiciaires.
Oui Nicolas, l'extradition du chef rebelle vers la Centrafrique hier dans la nuit nous a été confirmée par Bangui et Yaoundé. Comme on peut le constater sur une vidéo diffusée par la chaîne russe RT, la seule à avoir couvert son arrivée à l'aéroport de Bangui, on voit Armel Sayo, t-shirt jaune et un sac sur le dos, sortir dans l'avion menotté au poignet en souriant. L'ancien ministre centrafricain a ensuite été acheminé à la direction générale de la police, où il a été auditionné, avant d'être envoyé à la prison militaire de haute sécurité du camp d'Oru dans le centre-ville de Bangui, où il est détenu depuis selon nos sources. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international après avoir lancé l'année passée un groupe rebelle et menacé de renverser le pouvoir actuel, Armel Sayo avait été arrêté en janvier à l'aéroport de Douala, alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour la France. Son extradition a pris du temps parce qu'il voyageait avec un passeport français et le Cameroun exigeait l'accord de Paris avant de l'extrader vers notre pays, nous a expliqué le ministre conseiller à la présidence de la Centrafrique, Fidel Gwandjika. Yaoundé n'a pas confirmé jusqu'ici. Accusé de tentative de coup d'État et de menace de déstabilisation, le chef rebelle risque la prison à vie s'il est reconnu coupable.
Au Soudan, la ville de Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement, à nouveau bombardée ce matin. 3e jour consécutif de frappes menées par des drones, Alexandra Brangeon.
Oui, tôt ce matin, vers 4-5 heures, plusieurs installations de Port-Soudan ont été touchées par des frappes de drones attribuées aux paramilitaires des forces de soutien rapide. L'aéroport, tout d'abord, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Port-Soudan, une base militaire à proximité. Plus proche du centre-ville, un dépôt de carburant près du port qui a été pris pour cible déclenchant un incendie dans une zone densément peuplée et qui a provoqué un mouvement de panique. Et enfin, une centrale électrique également proche de la ville. Alors pour l'instant, les autorités n'ont pas rapporté de victimes. À chaque fois, ce sont des infrastructures qui sont ciblées, sauf hier où 2 hôtels dans Port-Soudan ont été touchés.
Jusqu'au début de la semaine, Alexandra, Port-Soudan avait été épargnée. Il faut dire que cette ville portuaire se trouve à plus de 800 km de Khartoum, dans une zone contrôlée par l'armée.
Oui, et donc loin des positions des paramilitaires. Alors, selon des chercheurs, ces frappes indiquent plusieurs choses. Un, les paramilitaires ont désormais les moyens de frapper loin de leur position. D'ailleurs, depuis un mois, ils ont de plus en plus recours à ces drones dits explosifs pour frapper en territoire contrôlé par l'armée. On parle de drones chinois récemment acquis qui ont une portée d'environ 1500 km. Ensuite, l'utilisation de ces drones change la stratégie de ce conflit. Les FSR peuvent désormais étendre la guerre dans des zones où ils ne sont pas présents. Et enfin, ils visent des infrastructures. Il ne s'agit pas de prendre la ville de Port-Soudan, mais de détruire des installations pour perturber, affaiblir les autorités, comme l'aéroport qui est utilisé par les militaires, mais aussi par les civils, et notamment par l'ONU et les organisations humanitaires.
Le Rwanda pourrait-il accueillir des migrants expulsés des États-Unis? On se souvient qu'un accord migratoire hautement controversé avait déjà été négocié avec le Royaume-Uni avant qu'il ne soit abandonné l'an dernier par le nouveau gouvernement travailliste. Eh bien, des discussions seraient aujourd'hui en cours entre Kigali et Washington, Lucie Mouillot.
Devant la télévision nationale, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndungirehe, confirme pour la première fois la tenue de discussions bilatérales avec les États-Unis sur un potentiel accord migratoire. Des échanges en cours, toujours à un stade préliminaire, a-t-il indiqué, sans donner plus de détails sur le contenu des discussions. Un tel accord n'est pas nouveau pour le Rwanda, a ajouté le chef de la diplomatie, évoquant notamment le projet controversé signé en 2022 avec le Royaume-Uni, finalement abandonné avant son implémentation l'année dernière par le nouveau gouvernement britannique. Les autorités de Kigali avaient à l'époque affirmé rester engagées sur les questions migratoires et ouverte à des discussions similaires avec d'autres pays. Début avril, le Rwanda était déjà cité par des médias américains comme l'un des pays tiers envisagés par Washington pour y envoyer des migrants rejetés par l'administration. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et dans la deuxième partie d'Afrique Midi sur ce sujet, le chercheur Thierry Vircoulon est notre invité. Les États-Unis qui sont parallèlement à la manœuvre pour faire aboutir un accord de paix entre le Rwanda et le Congo. Les deux pays ont officiellement transmis à Washington en fin de semaine dernière le premier jet d'un projet d'accord. Le conseiller Afrique de Donald Trump, Massad Boulos, a aussi annoncé la mise en place d'un comité de suivi censé accompagner les deux pays. Il réunit ce comité les États-Unis, le Qatar, la France et le Togo au nom de l'Union africaine. La suite des événements, toutefois, n'est pas encore très précise, Passion Ligodi.
Ce que l'on sait à ce stade, c'est qu'une nouvelle rencontre est envisagée d'ici à 3 semaines entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Mais ce rendez-vous n'a pour l'instant pas encore été officiellement arrêté. Washington, qui se félicite de cette avancée, continue de jouer un rôle moteur dans le processus. La réunion du 30 avril à Doha s'est d'ailleurs tenue à son initiative. En revanche, le comité de suivi annoncé le 1er mai par le conseiller spécial américain Massad Boulos reste à ce jour peu structuré. Aucune date de réunion n'a été communiquée et aucune feuille de route précise n'a été arrêtée selon nos informations. Par ailleurs, des incertitudes subsistent. D'un côté, la nouvelle organisation diplomatique américaine rend difficile l'identification claire des rôles et des responsabilités. De l'autre, certains partenaires expriment des réserves quant aux intentions de Washington, perçues comme trop orientées vers ses intérêts stratégiques. Les États-Unis ne s'en cachent d'ailleurs pas. La déclaration de principe signée le 25 avril permettra aussi de protéger les intérêts stratégiques américains dans le minerai critique, dit Washington. Et à ces stades, la France, le Qatar et le Togo attendent désormais que Washington clarifie les prochaines étapes, tant sur le plan du calendrier que sur la structure opérationnelle du comité.
Il est 14h43 à Paris.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, notre série de portraits des figures africaines qui participeront à partir de demain au conclave chargé d'élire le nouveau pape. On s'intéresse dans un instant au cardinal Dieudonné Nzapala Inga, archevêque de Bangui. Hasard du calendrier, les évêques d'Afrique de l'Ouest commencent de leur côté leur assemblée générale à Dakar. Ils doivent évoquer les problématiques des communautés chrétiennes de la région. Et puis les sports, les Sénégalais sont en mauvaise passe à la CAN U20 qui se déroule en ce moment en Égypte. Alors que le conclave chargé de désigner le prochain pape débute demain au Vatican, nous continuons à nous intéresser aux principales figures africaines du collège cardinalis. Personnalité influente de l'Église catholique, ces cardinaux voteront pour désigner le successeur de François. L'un d'eux est centrafricain, Dieudonné Nzapala Inga, fils de cultivateur de Bangassou. Il a porté l'espoir dans un pays déchiré pendant de nombreuses années par la guerre et les tensions interreligieuses. Son portrait signé Rolf Steph Domielleux.
Issu d'une famille modeste, Dieudonné Nzapala Inga a découvert la foi chrétienne grâce à un père spiritain. Ordonné prêtre en 1998, il a été nommé évêque par le pape Benoît XVI en 2012. Au temps fort de la crise militaro-politique de 2013, pendant que les balles sifflaient, Dieudonné Nzapala Inga a sillonné toutes les zones rouges de la capitale au volant de sa voiture. nature pour secourir des personnes vulnérables, recueillir des corps ou des blessés. Il a parcouru toutes les régions de la République centrafricaine aux côtés de l'imam Kobin Layama et du pasteur Nicolas Guéret-Koyamin pour prôner la paix, la tolérance et le vivre ensemble. Grâce à son courage, il a créé des espaces de dialogue entre les communautés et les belligérants. À 57 ans, Dieudonné Zapalainga a bâti son ministère sur la défense des pauvres, la recherche de dignité humaine et de justice pour les personnes vulnérables. Grâce à son dévouement, l'archevêque de Bangui a été le premier cardinal centrafricain créé par le pape François en 2016. Aujourd'hui, en Centrafrique, il est perçu comme un berger qui partage la même vision que le pape François. Rolf Estève Domialeu, Bangui. RFI.
De leur côté, les évêques d'Afrique de l'Ouest qui ne participent pas au conclave sont réunis en assemblée générale à Dakar, au Sénégal. Une centaine d'évêques venus de 16 pays. Ils doivent discuter des problématiques de la communauté chrétienne dans la région, Léa Lisa Westerhoff.
La justice et la paix en Afrique de l'Ouest, c'est le thème de cette assemblée générale des évêques de la sous-région qui se tient tous les 5 ans. Pendant une semaine, la centaine d'évêques présents va se réunir à huis clos sur tous les sujets qui les intéressent. Aucun ordre du jour n'est rendu public, les plénières sont tenues secrètes. Parmi les problématiques majeures de la région, la crise du Sahel et le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CDAO devraient être au menu de cette rencontre. Selon un membre de l'église sénégalaise, les divisions politiques ne doivent pas s'inviter dans la communauté ecclésiastique. Les liens de solidarité entre les églises des pays de la sous-région devraient donc être renouvelés. La présence du président Bassirou Diomaye Faye à l'ouverture des travaux aujourd'hui révèle en tout cas le poids que la voix de l'église a au Sénégal, même dans un pays à 95% musulmans. Autre sujet majeur qui est dans tous les esprits, l'élection du nouveau pape. Même si les conférences épiscopales ne participent pas au processus, les évêques ne manqueront pas d'en parler. Pour beaucoup, l'espoir est de voir un Africain nommé à ce poste et un pape plus conservateur que le précédent. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
La CAN de football des moins de 20 ans se déroule en ce moment en Égypte et les Sénégalais tenants du titre ne sont pas au mieux. Jeudi, il leur faudra s'imposer sur les Congolais de RDC pour garder une chance de se qualifier pour les quarts de finale. Car après un match nul vendredi dernier face aux Centrafricains, ils ont été battus hier soir par les Ghanéens. 1-0. Serigné Salioudia est le sélectionneur des jeunes Sénégalais.
C'est vrai qu'on avait en face de nous une très belle équipe du Ghana. Donc, on a eu à jouer pendant les Africains. Il y a une faute de défense. On prend un but. C'est un but qui vient de nulle part. Quand on voit le nombre d'occasions qui se sont créées, je pense qu'il n'y avait pas, presque pas d'occasion. Entre les deux équipes, ils se tenaient après. Alors, c'est vrai, il faut reconnaître une belle équipe qui a beaucoup d'expérience, voilà, qui a des gens peut-être qui sont plus matures que nos joueurs. Quand on les voit, on les compare, ils sont plus matures que nos joueurs, ça il faut oser le dire. Mais on a eu à faire notre jeu, on a eu à les contenir, on a eu à contrecarrer un peu le jeu sur la profondeur qu'ils faisaient. Donc maintenant, comme je dis, c'est très amer parce qu'on avait la possibilité encore une fois de faire un bon résultat et d'espérer à attendre le dernier match.
Propos recueilli par Babacar Fall, la CAN U20 en Égypte jusqu'au 18 mai. 14h47 à Paris. Anne Kantner, les grands titres de ce mardi 6 mai.
Il y aura un nouveau vote cet après-midi en Allemagne après l'échec inédit de Friedrich Merz. Le futur chancelier conservateur n'a pas réussi à obtenir suffisamment de voix ce matin au Parlement. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du pays. Les deux grands partis qui forment la coalition, CDU et SPD, s'en renvoient la responsabilité. Et dès les minutes qui ont suivi ce fiasco, l'extrême droite de l'AFD a demandé la tenue de nouvelles élections législatives anticipées. Le gouvernement israélien répète que Gaza sera complètement détruite et qu'après la guerre, les Palestiniens partiront en grand nombre à l'étranger. Dans ce contexte, le Hamas estime qu'il n'y a plus aucun intérêt à négocier une trêve avec Israël. Des bombardements sur la capitale du Yémen, une heure après un message israélien demandant aux habitants des environs de l'aéroport de quitter les lieux. La nuit dernière, Israël avait frappé les Houthis du Yémen, responsables d'un tir près de l'aéroport de Tel Aviv dimanche. Et puis vous parliez de la CAN, Nicolas, la CAN des moins de 20 ans. Il y a aussi du football européen à suivre aujourd'hui. Demi-finale retour de la Ligue des Champions entre l'Inter Milan et le FC Barcelone. À l'aller, les deux clubs avaient fait score égal, 3 buts partout à l'issue d'un match exceptionnel. Alors que l'administration Trump veut expulser des centaines de milliers de migrants illégaux du territoire américain, le ministre rwandais des Affaires étrangères a confirmé que son pays discutait avec Washington d'un accord pour accueillir des migrants renvoyés par les États-Unis. Ça ne serait pas le premier du genre que Kigali conclurait avec un pays occidental, mais ces discussions interviennent aussi au moment où les États-Unis sont à la manœuvre pour obtenir un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Thierry Vircoulon.
Bonjour.
Êtes-vous étonné de cet accord migratoire qui serait en discussion entre le Rwanda et les États-Unis ?
Non, ce n'est pas étonnant parce que, comme vous le disiez, le Rwanda a déjà mené ce genre de politique, notamment avec le Royaume-Uni, puisqu'il avait un accord avec le gouvernement conservateur précédent pour accueillir les migrants clandestins que le Royaume-Uni voulait expulser. Tout avait été mis en place et le Royaume-Uni avait payé 300 millions d'euros pour ça. Et puis ça a complètement échoué finalement. Et donc le Rwanda maintenant se tourne vers les États-Unis puisque le gouvernement travailliste britannique maintenant a jeté cet accord à la poubelle et a mis fin à cette politique d'expulsion des migrants. Eh bien le Rwanda se tourne vers les États-Unis puisque, comme vous le disiez, l'administration Trump mène la chasse aux migrants.
Que cherche le Rwanda en jouant ce rôle ? De l'argent à redorer son image auprès de grandes puissances, à s'imposer comme un partenaire incontournable pour des pays obsédés par les rhétoriques de submersion migratoire ?
Oui, je pense que c'est exactement les mêmes motivations que le gouvernement rwandais avait quand il a signé l'accord avec la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, d'une part, recevoir de l'argent pour ça, être payé pour ça. Et comme je le disais, l'accord entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni a coûté 300 millions d'euros au Royaume-Uni pour rien, finalement. Et puis le deuxième aspect, c'est en effet se rendre indispensable, entrer dans les bonnes grâces de l'administration Trump au moment où évidemment elle cherche d'une part des pays de destination pour tous les migrants qu'elle veut expulser, mais surtout au moment où il y a des négociations, un processus de négociation sur le conflit dans l'est de la RDC qui est mené par Washington, et donc c'est une raison de plus pour Kigali d'essayer de rentrer dans les bonnes grâces de Washington.
Oui, c'est-à-dire que Kigali essaye de faire pencher la balance en sa faveur dans l'initiative diplomatique lancée par les États-Unis entre le Rwanda et le Congo pour aboutir à un accord de paix.
Oui, tout à fait, parce que en fait, les États-Unis sont rentrés dans cette médiation et dans ce conflit à l'initiative du gouvernement congolais, qui a proposé aussi un deal, puisque évidemment tout le monde se met au style politique de Trump et a compris qu'il faut lui proposer des deals. Donc, le gouvernement de Tshisekedi lui avait proposé un deal qui consistait à lui donner accès à son domaine minier, à son secteur minier. Et donc, le Kigali réplique en quelque sorte, en lui donnant lui la possibilité d'expulser des migrants sur son territoire. Et donc on voit qu'il y a des offres concurrentes de la part de Kinshasa et de Kigali en direction de l'administration Trump qui, comme je le disais, est une administration qui veut dealer, qui veut faire des transactions.
Mais comment les États-Unis de Donald Trump considèrent-elles le Rwanda ? Fin février, ils imposent des sanctions contre James Kabarebe pour son rôle présumé dans l'offensive du M23. Et puis ensuite, on apprend qu'un dialogue bilatéral stratégique est lancé. Au final, quel regard Washington porte sur Kigali, selon vous ?
Washington veut jouer un rôle, le rôle de médiateur dans le conflit entre la RDC et le Rwanda. Ce qui est très intéressant, c'est que en effet, au début, Washington, l'administration Trump est restée sur la ligne de l'administration Biden, c'est-à-dire en désignant le Rwanda comme l'agresseur et en imposant de nouvelles sanctions. Et donc là, il y avait une continuité. Mais Donald Trump, qui a l'intention d'avoir une victoire diplomatique sur la scène internationale, qui n'a pas en Ukraine, qui n'a pas évidemment sur Gaza, essaye, voit avec le conflit RDC-Rwanda une opportunité pour avoir un accord de paix et pour se présenter encore comme le champion du monde, si je puis dire. Et comme il n'y arrive pas sur les autres conflits où il avait dit qu'en Ukraine, ça serait réglé sitôt qu'il serait arrivé au pouvoir, il s'est saisi de ce conflit et donc c'est pour ça que Washington est maintenant à la manœuvre et essaye de négocier un accord entre la RDC et le Rwanda. Ben, on va voir s'ils y arrivent, parce qu'il ne faut jamais jurer de rien dans ce domaine.
Les États-Unis ne se cachent pas d'être intéressés par les minerais stratégiques de la région et par la nécessité de sécuriser les approvisionnements. Mais ces minerais, ils sont massivement en RDC, pas au Rwanda. Quel rôle le Rwanda joue, selon Washington, dans cette chaîne d'exploitation et d'exportation ?
Pour le moment, il n'y a rien de très clair, mais disons que les rumeurs laissent entendre que la RDC donc serait, comme vous le dites, le pays d'extraction, de production de ces minerais, et que, en tout cas, les Kivu, les minerais seraient extraits dans les Kivu, mais seraient raffinés au Rwanda, dans le cadre d'un accord entre Washington, Kigali et la RDC. Et donc, on créerait cette chaîne commerciale officielle où chacun aurait un rôle à jouer et donc en retirerait des bénéfices, le pays d'extraction et le Rwanda qui deviendrait le pays de raffinage. Voilà, donc c'est à peu près les contours du deal qui semble être en discussion sur le secteur minier dans la zone des Grands Lacs.
Merci Thierry Vircoulon, merci beaucoup. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Au Soudan, le patrimoine aussi a souffert des deux ans de guerre. À Khartoum, dont l'armée nationale a annoncé fin mars avoir repris le contrôle, des monuments historiques ont été saccagés et pillés. C'est le cas notamment du musée de la maison du Ralifa à Omdurman, dans la banlieue ouest de la capitale soudanaise. Le reportage de l'envoyé spécial de RFI, Gaël Lalex.
Au milieu des décombres, Jamal Mohamed Zainal Abdin, directeur de la maison du Ralifa, ouvre les portes du musée. À l'intérieur, des vitrines brisées et quelques instruments de musique anciens.
Dans cette vitrine, il y avait les épées des combattants d'Al-Ralifa. Il y en avait trois ici et là. Et puis, dans cette vitrine-là, il y avait tous les artefacts religieux. Tout a été volé. Cette partie de la ville était aux mains des forces de soutien rapide et ils ont tout pillé. Quand l'armée a récupéré Khartoum, je suis revenu et j'ai découvert l'ampleur du désastre, ça m'a anéanti. Une tristesse infinie. J'étais responsable de ces objets qui représentent le Soudan. C'est comme si j'avais perdu un enfant.
Abdoulaye Ben Mohamed Al-Ralifa a régné sur le Soudan avant la colonisation britannique. Il est le chef de l'État mahdiste dont les frontières s'étendent jusqu'en Éthiopie. Al-Ralifa meurt en 1899 dans une bataille contre les troupes anglo-égyptiennes. Sa maison est un trésor du passé.
Ce sont des antiquités, des souvenirs de notre passé, et cela nous a demandé beaucoup d'efforts de les retrouver et de les collecter. C'est important pour le pays. On ne peut pas donner une valeur financière à ces objets. Chacun d'entre eux est inestimable. Les FSR ont voulu attaquer l'identité soudanaise. Ces objets pourront sans doute se revendre, mais leur valeur, c'est surtout ce qu'ils représentaient dans le cœur des Soudanais. Maintenant, nous allons créer un comité, évaluer les dégâts et reconstruire la maison du Mahdi.
Oucham Kidir Ahmed Karar est le directeur des antiquités de la ville de Chendi, au nord de Khartoum. Il prête main forte pour l'inventaire des dégâts.
Il est difficile d'évaluer combien on a perdu. Pour le moment, on collecte ce qu'il nous reste et on comparera avec ce que nous avions. Une fois qu'on aura identifié avec précision les objets perdus, nous prendrons contact avec toutes les organisations à travers le monde, ainsi que les pays avec qui nous entretenons de bonnes relations pour qu'ils nous aident à récupérer nos antiquités. Personne ne pourra nous empêcher de défendre notre identité. Maintenant, on a appris de nos erreurs et la prochaine fois, on se battra.
Le musée national de Khartoum a également été pillé. Les autorités soudanaises entendent solliciter l'UNESCO et Interpol pour empêcher le trafic d'antiquités. Gaël Lalex, de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
Et c'est à Khartoum que se referme cette demi-heure africaine, réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un peu plus d'une minute sur RFI pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Vous le savez, il y a deux autres options. Une demi-heure d'information en full day ou bien en portugais si vous nous écoutez en Afrique lusophone. À tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Comment vivre avec des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs?
Jeudi.
Prendre soin de sa santé quand on est en situation de handicap.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Afro Club, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afro Club, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afro Club, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir. RFI, la sélection du mois.
Caballero et Jean Jass avec Yamé.
C'est toujours
Samy Galmi.